Merci Guillaume. On m'entend là, oui? Je disais tout à l'heure à Guillaume que je me sens moi aussi gêné. J'aurais aimé me situer dans le prolongement de ce que Gérard disait tout à l'heure sur le mouvement du développement local et les pays dans lesquels nous avons mis l'été ensemble. Moi, je suis de Bretagne. Pour ce qui est des pays, chez nous, ils ont plus de 2 siècles d'existence et ce n'est pas un décret qui les supprimera. Donc le combat chez nous, il va continuer certainement, notre, on verra. Et j'aurais aimé me situer également dans le prolongement de M. Brichard. Je viens de participer les jours derniers au chantier d'ensilage dans mon village, uniquement des productions laitières et porcines. On en cause, hein. Et on en cause, moi, ma plus vive inquiétude, ça va être l'augmentation des suicides. C'est ça qui m'inquiète le plus. Donc, on m'a demandé de prendre un peu de recul et de voir comment les valeurs dont le monde rural est porteur nous font grandir en humanité. Alors, ce n'est pas un topo philosophique, mais il y a quand même un peu de ça. En tout cas, c'est des données qui sont inspirées à la fois de mon insertion, à la fois comme chercheur et comme praticien dans le monde rural. En 3 étapes, si vous voulez, pour dire très très vite. Une thèse que j'avais faite sur le rôle des groupements agricoles dans le développement de la Bretagne centrale. C'était dans les années 60, hein. Donc on parlait CETA, on parlait groupements de vulgarisation, etc. Mais alors, c'est la restitution de cette thèse qui a déclenché ce qu'on appelle le mouvement du Menet. 8 000 personnes dans les réunions de base, de là est né le premier comité de pays de France. On n'y avait pas pensé à l'époque. Donc ce que j'ai découvert immédiatement, c'est qu'il fallait croiser l'approche sectorielle, l'approche par filière dont vous parliez, et d'un projet plus global d'un territoire donné, si on veut le mettre en mouvement. Pour moi, c'est une évidence. 10 ans plus tard, 3 mandats de maire dans ma commune, parce qu'on m'a dit ce que tu causes, faut le faire. Donc je me suis retrouvé maire de ma commune pendant 3 mandats. Et ensuite, la présidence de la commission du plan et de l'aménagement au Conseil économique et social de Bretagne, où là, nous avons vu l'importance d'articuler le local, on l'appelait le micro-régional, le régional, le national et bien entendu l'européen, programme leader et tout ça. Ce que nous avons fait en développant la dynamique des pays, d'abord en Bretagne, puis au niveau national, donc on s'est retrouvés, avant de passer le relais ou d'essayer de le faire passer dans les lois Joxe-Bailey dont parlait M. Dumont ce matin, loi Pasqua de 95, je n'oublie pas, loi Vonnet de 99, qui était pour nous la plus importante parce qu'elle crée les conseils de développement. S'il y a quelque chose pour lequel il faut se battre, les pays à la rigueur, mais les conseils de développement, ça c'est très important. Et enfin, mes voyages d'études et mes rencontres internationales m'ont conduit à comprendre le développement local au défi de la mondialisation, à approfondir le territoire comme une exigence fondamentale à maîtriser, pour maîtriser la mondialisation. Plus il y a de mondialisation, plus il faut qu'il y ait du développement local. Et que le développement, le territoire, est un facteur essentiel pour sortir de la crise actuelle et inventer une nouvelle étape du vivre ensemble. D'où l'ouvrage que j'ai sorti là récemment, Repères pour un développement humain et solidaire. De ce parcours personnel, fait de recherche à l'INRA, au CNRS auparavant, et d'engagement, deux convictions. Le territoire, un repère fondateur pour grandir en humanité, je veux dire, et les territoires comme des atouts et des repères pour humaniser la mondialisation. Mais ça a déjà été évoqué par M. Callam et M. Dumont, donc je serai très rapide sur ce paragraphe-là. Et d'abord, donc, le territoire, là, je déborde le rural, là, je m'adresse à l'homme en tant que, enfin, à l'être humain en tant que tel. Jusqu'à la crise actuelle de civilisation, qui ébranle nos modes de vie et qui interroge nos raisons de vivre, il semblait acquis qu'on était passé d'une société de territoires limitée à un monde de réseaux, de relations et de filières illimitées. Le développement humain plaide maintenant pour une nouvelle articulation entre les réseaux d'échange de pouvoir et les territoires d'appartenance. Il nous faut les deux. Pour avancer, comme disent les Chinois, il faut marcher sur les deux jambes, l'une solidement posée pour que l'autre se projette et conjuguer en permanence l'enracinement et l'ouverture. Pour ça, je trouve que les sciences humaines nous apportent viennent conforter la définition la meilleure que je connaisse de l'être de la personne humaine, définition latine donc très concise. La personne, c'est un esse ad, je traduis, un être vers. D'où une tension permanente entre deux pôles. Le pôle de l'esse, de l'être, un besoin de consistance, un besoin d'identité reconnue, d'autonomie, de durée. Il n'y a pas que le développement durable, il y a la durée qui est importante, et d'intériorité. Sinon, on s'évanouit. Et le HAD, un besoin de relation, de mobilité, d'ouverture aux autres et au monde, un besoin de dépassement vers un être plus, vers un plus grand que soi. Si on ne prend pas les deux, on rate l'humanité. Et ce qui vaut pour la personne vaut toute proportion gardée pour la réalité collective. Je rappelle, les premiers sociologues parlaient d'ordre et de mouvement. Aujourd'hui, on parle de sécurité et d'ouverture, avec des temps forts où la conscience collective se ressent, se mobilise pour affirmer son identité et se forger un avenir, à côté de longtemps de gestion, de latence, où le poids des structures et des habitudes l'emporte sur le besoin de changer et de s'ouvrir. L'être humain, qu'on le prenne au plan individuel, personnel ou collectif, ne pousse pas de manière sauvage, mais guidé par des repères, et j'en prends deux, le temps et l'espace qu'on ne peut dissocier. Et d'abord, donc, je crois qu'il faut s'inscrire dans le temps. Ça a été évoqué, et je reprends ce que vient de dire M. Brichard tout de suite. Se retrouver dans les rythmes du vivant. Tout groupe humain a besoin de durer, de s'inscrire dans une lignée, dans une épaisseur historique, une mémoire vivante capable de nourrir un regard prospectif. Saisir d'où l'on vient pour mieux aller où l'on veut. L'homme a besoin de territoire, je dis, d'une terre histoire fondant une terre espoir, pour porter un projet commun comme une étape dans une démarche de développement. Où là, alors je reprends encore une formule, où la force des héritiers, ce que nous avons fait depuis 50 ans, où la force des héritiers nourrisse l'audace des bâtisseurs. Il ne s'agit pas de prolonger hier, mais il s'agit de le transformer. Une histoire marquée de temps fort, de crises surmontées, qui soudent une culture et une identité, qui sont des braises capables de se raviver pour relever les défis. La mondialisation des échanges nous impose le temps réel standardisé, le temps de la pression de l'instant, du très court terme monnayable, alors que la réalité vécue, celle que nous connaissons, elle est faite de temps sociaux multiples, de parcours individuels qui veulent être libres et différents. Et on voit maintenant les grandes agglomérations élaborer des politiques du temps, des boutiques du temps, c'est ce qu'a fait par exemple la ville de Rennes avec, moi je dis toujours les auteurs, hein, tant pis, des boutiques du temps pour concilier les horaires, les déplacements des uns des autres et répondre à des demandes nouvelles. Il faut du temps pour se construire, alors que trop de jeunes veulent tout de suite, mais il faut du temps pour se construire. Il faut du temps pour prendre conscience de la complexité des problèmes, les délais nécessaires pour mûrir un projet durable, les alliances et les compromis nécessaires pour vivre ensemble. Autant de choses qui sont pleines de ruralité, ça. Hein. Temps. S'inscrire dans le temps, s'incorporer dans des territoires et des réseaux. Les deux. L'homme, le groupe humain, ne peut pas grandir hors sol. Les cochons, à la rigueur, les poulets aussi. Mais autrement, l'homme, non, ne peut pas grandir hors sol. Ni pas plus qu'en dehors du temps vécu. Pour être reconnu et agir en responsable, il doit se référer à des réseaux tissés au gré de ses désirs et de ses échanges, des réseaux qui ne cessent de s'élargir et de se complexifier. Pensez à Internet, pensez aux téléphones portables. Il doit y avoir autour de 3 milliards de téléphones portables sur Terre, alors qu'il n'y a qu'un milliard pour Internet, mais il y a 2 milliards qui n'ont pas l'électricité. Mais il y a autant besoin de racines, je dirais des racines et des ailes, quoi. Hein. Il a besoin autant de racines, d'espaces relativement stables et appropriés pour les meubler de signes, de valeurs affectives, appelés à évoluer, soit de quelque part, si tu veux être reconnu comme quelqu'un. L'homme actuel est un grand nomade qui a besoin de quelques lieux d'appartenance pour poser son sac, reprendre souffle et poursuivre sa route. Il lui faut surtout des espaces synthèse pour être perçu dans son aile, dans son projet, et pour trouver, alors un mot qui est capital, trouver assez de confiance pour s'impliquer dans une œuvre commune. La psychologie génétique, en particulier celle de Piaget, montre comment l'enfant se construit à travers des enveloppes successives. D'abord l'enveloppe de son corps qu'il apprend à maîtriser, à explorer, puis celle des êtres et des objets qui lui sont familiers. Ensuite la maison, le jardin, la rue, le village, avant de s'élargir au vaste monde à la fois fascinant et inquiétant. Jadis, les espaces d'appartenance se limitaient à des localités précises. En milieu rural, on connaît. Aujourd'hui, il nous faut conjuguer les territoires de proximité et les réseaux les plus divers, les espaces à taille humaine et les horizons du net, en évitant de s'étouffer dans les unes ou de s'évaporer dans les autres. Des études en cours nous montre combien l'urbanité primaire, celle des relations spontanées de la rue, du quartier, cette urbanité primaire est indispensable pour rendre respirable l'humanité secondaire des grands ensembles anonymes et les labyrinthes des moyens de déplacement. Comment se développer dans un univers bétonné où tout doit être programmé pour fonctionner de manière rationnelle et rentable? Mon autre partie, je vais donc simplement énumérer, parce que je veux respecter, je suis dans les délais, vous voyez, quelques atouts et quelques ancrages pour une mondialisation humanisée. Mais ça a été très bien dit ce matin par M. Calam et par le professeur Dumont. Actuellement, les territoires sont submergés par les flux et les reflux de la finance mondiale, déconnectés de l'économie et de la société, et qui veut faire de la Terre un unique marché sans frontières, sans autre règle que la rentabilité rapide et immédiate. Cela aboutit, comme on dit dans notre langage, à une économie d'archipel, parsemée d'îlots de prospérité bien reliés entre eux, à côté de vastes espaces laissés en attente ou à l'abandon. La crise actuelle démontre l'impuissance relative des aigles du pouvoir et du savoir, leur incapacité à gérer la complexité des équilibres qu'ils engendrent et surtout à tenir leurs promesses d'un progrès généralisé. Alors il serait illusoire face à ça, dire le territoire c'est la panacée, c'est le remède universel à cette crise globale de civilisation. Mais je crois que ne manque pas d'arguments, d'atouts pour rendre confiance, rendre d'abord santé et confiance à ce monde désemparé. Parlons de la plus-value des territoires. Très rapidement. Capacité de résistance, capacité d'adaptation aux turbulences actuelles, effet d'amortissement des crises, capacité deuxièmement de mobiliser des ressorts communs pour faire face et opérer les dépassements nécessaires. Je vous rappelle, quand nous avons démarré le truc du Menet en 65, le DDA de l'époque m'a dit « Ne vous occupez pas de ça, votre coin c'est destiné à être reboisé ». Ben, nous avons maintenant une entreprise de 2500 emplois et un taux de chômage de 4%. Mais je n'avais pas prévu ça non plus. Un sentiment d'appartenance à une même terre, je suis de là et pas d'ailleurs, à une même histoire à prolonger. Nos anciens ont fait ça, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à notre manière. Une identité fédératrice, un climat de confiance qui suscite les initiatives, les synergies, les effets multiplicateurs. 2 plus 2 égale 5. Un bon niveau aussi pour repérer les gaspillages, les pollutions à réduire, gérer les écosystèmes. C'est à la source qu'il faut d'abord contenir les énergies. Elle permet enfin une gestion possible de la complexité croissante des problèmes au lieu de tout accumuler au sommet. Une démarche de subsidiarité conduit à identifier et à reconnaître les niveaux d'analyse et de décision les plus pertinents, on l'a abordé tout à l'heure, en fonction des problèmes à traiter. Il y a des problèmes qui doivent se traiter au niveau de la commune. Pourquoi les envoyer au département, à la région, et d'autres au niveau de la région, et d'autres au niveau de l'ONU? Je parle des territoires locaux, à la fois assez proches des populations pour les impliquer effectivement, et assez vastes en même temps pour élaborer une stratégie à long terme et avoir les moyens de les réaliser. J'ai travaillé pas mal ces problèmes de démarche, développement territorial, notamment en Inde, en Afrique et puis chez nous en Bretagne. Il ne suffit pas de penser globalement pour agir localement. C'est un des grands slogans. Il faut penser et agir globalement à tous les niveaux pour promouvoir ces politiques de civilisation que demande Edgar Morin. Ces expériences connaissent les mêmes étapes, avec des mots qui changent. La mise en mouvement des forces locales par la prise de conscience, par l'appel aux ce que les Québécois appellent les entrailles culturelles. On parlait de matrice ce matin. Deuxièmement, l'approfondissement du regard, du diagnostic partagé de la collectivité dans son environnement naturel et social. Troisièmement, l'expression du souhaitable et l'exploration des possibles. Au lieu d'arriver avec des solutions toutes faites, laissons les gens exprimer ce qu'ils veulent. Et sachons les écouter, puis on verra après. L'élaboration du projet, là pour moi, évidemment, vous connaissez la formule, il n'y a pas de territoire condamné, il y a des territoires sans projet. Qu'est-ce qu'on appelle projet? Il faut donner ce matin. En allant là, du global vécu au sectoriel et du sectoriel au global approfondi. Quatrièmement, la réalisation et l'évaluation de ce projet, alors là on arrive aux notions de gouvernance, en associant les pouvoirs publics, les élus des collectivités, les acteurs économiques et les représentants de la société civile. Et en tout cela, j'aime beaucoup la phrase de Barber, un auteur américain, les échanges entre les partenaires comptent autant que la direction envisagée et le chemin parcouru. Il y a ce qu'on échange ensemble qui fait qu'on va continuer d'aller plus loin. Je termine. Je crois qu'en tout ça, nos territoires ruraux, en incluant les centres qui les font vivre et qui les animent, démontrent d'abord leur renaissance démographique, pour la majorité, une vitalité sociale et culturelle, en combinant de manière féconde et durable les fonctions productives, résidentielles et environnementales, pour répondre aux attentes contemporaines. Parce qu'ils savent se rendre attractifs, faire converger des forces différentes à un niveau compréhensible, des alliances souples et des projets contractualisables, ils résistent mieux à la crise. Ils inventent des solutions multiples adaptées où germent de nouveaux, pas seulement modes, mais de nouveaux styles de vie. Ces territoires-là ne sont pas des espaces résiduels luttant contre l'invasion des métropoles, mais l'autre face d'un développement durable et équilibré. Ces territoires ruraux ne sont pas des réserves protégées, mais des réservoirs d'énergie et de synergie, non les derniers soubresauts d'un monde dépassé, mais parmi les chantiers prometteurs pour une nouvelle étape d'une civilisation humaniste enracinée et ouverte. Merci.